Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barre et Perico Légas, Mathilde Himmer et Pierre Rondeau avec vous, bien sûr, au 32-16 pour agir à notre dernier débat. Aujourd'hui, faut-il créer un revenu spécial pour les mères au foyer en France? On vous attend au 32-16 et sur l'application RMC, rubrique Direct Studio. Il y aura RMC s'engage pour vous à 14h30. On reviendra sur la faillite de Maître.com. Vous savez, cette entreprise d'ameublement qui a laissé plein de clients sur le carreau. Certains attendent leur canapé, d'autres un remboursement. En tout cas, il y a du nouveau dans ce dossier, on vous dira tout ça. Il y aura les immanquables de Rémi Barré, toutes les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, et peut-être, et pour la dernière fois de la
semaine,
Rémi, nous allons ouvrir le coffret RMC.
Oui, parce qu'à quelques jours, j'adore la voix que tu mets, à quelques jours du début de la Coupe du Monde, RMC vous offre le meilleur équipement high-tech grâce au coffre RMC. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant coffre par SMS au 732-16. Si vous êtes sélectionné, vous repartez soit avec un iPad, soit avec une enceinte Marshall ou Auburn. C'est déjà un très beau cadeau.
C'est énorme.
Et à ce moment-là, vous décidez de garder ce cadeau ou alors vous le remettez en jeu, vous abandonnez le cadeau, mais vous pouvez ouvrir le coffre RMC avec à l'intérieur Estelle, soit des AirPods, soit la totale Coupe du Monde, une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four à mini pizza et un mini bar. Si vous osez ouvrir le coffre RMC, vous pourrez peut-être gagner la totale. En tout cas, vous vous inscrivez tout de suite par SMS au 732-16 en envoyant le mot coffre par SMS au 732-16.
RMC Estelle Midi.
13h04 sur RMC, RMC Story. On va s'intéresser maintenant dans Estelle Midi au chiffre du jour. 2 millions, c'est environ le nombre de mères au foyer estimé en France. Des femmes qui se transforment tour à tour dans la journée en nounou, cuisinière, taxi, instit ou encore femmes de ménage et qui ne touchent aucun salaire pour toutes ces tâches, contrairement à l'Allemagne par exemple.
Exactement, puisque depuis 2007, le système en Allemagne a pris le doux nom d'Elternzeit, le temps parental pour les parents qui occupent un emploi salarié. Il est établi par le paragraphe 15 de la loi fédérale allemande sur le congé parental et s'applique soit à la mère, soit au père, soit même aux deux parents. Il est d'une durée maximale de 3 ans à partir de la naissance de l'enfant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il peut être fractionné. On peut prendre par exemple 1 an de temps parental au moment de la naissance de l'enfant, durant la première année, et puis ensuite, il y a encore 2 ans, donc prendre 2 ans, par exemple, entre l'âge de 5 et 7 ans. Votre employeur, durant cette période, est obligé de conserver votre poste, ou alors, à votre retour, de vous en proposer un équivalent, que ce soit en termes de fonction et de salaire. Au cours du congé parental, en revanche, votre employeur ne vous paye pas, mais les parents peuvent solliciter une aide de l'État, l'Elterngeld Plus, qui peut couvrir entre 65 et 100% du salaire net.
On sera avec Émilie dans un instant, elle nous écoute d'Allemagne et elle profite justement de son revenu parental, elle nous expliquera comment ça se passe en Allemagne. Est-ce qu'il faut créer un revenu parental en France, Mathilde Himmer?
Oui, moi je trouve que c'est une très bonne idée. En vrai, tout travail mérite salaire, ça fait trop longtemps que notamment les femmes qui majoritairement encore font ces tâches ménagères payent le prix fort. Moi je trouve que sur ces questions hommes-femmes, les choses ont quand même beaucoup évolué.
Oui.
Je le vois, je travaille dans le milieu du BTP. Je pense qu'il y a 30 ans, j'aurais juste pas pu ou ça se serait très mal passé pour moi. Et là, la majorité des artisans avec qui je travaille, ça se passe relativement bien. Pour autant, ça a encore trop souvent la triple peine. On pense aux heures de ménage. Dans l'étude, c'est aussi marqué assez clairement que c'est 3h30 pour les femmes, 2h par jour pour les hommes. On voit bien qu'il y a encore un décalage là sur les questions des salaires. On est toujours à 22% de différence de salaire entre les hommes et les femmes, et 9% quand c'est pour le même travail. Et aussi sur la question des enfants. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne solution. J'espère qu'elle sera mise en œuvre très rapidement par le gouvernement.
C'est quoi les avantages de ça, Perico Légas, pour vous? Ce serait quoi?
La famille, la protection de la famille. On a un problème démographique en France, dans d'autres pays également européens. Et aujourd'hui, la fonction la plus importante dans le pays, c'est qu'on élève les enfants correctement. Voilà. Et donc, la mission maternelle ou paternelle, parentale.
Parentale.
Voilà. Et je serais ravi, moi, d'être homme au foyer et que mon épouse rentre le soir, je lui mettrai ses chaussons avec un petit peu de... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un petit peu déjà la réalité.
Vous pouvez le faire quand même, hein, vous savez.
Oui, mais je le fais de bon cœur, je trouve ça très bien. En tout cas, qu'un des deux parents reste. Quand on sait aujourd'hui les problèmes que rencontrent les enfants en scolarité, hein, aller en sociologie, passer beaucoup de temps sur les tablettes, le nombre de... Si on peut réinstaurer un climat familial, éducatif, pédagogique, social, apaisant, avec un des deux parents qui consacre du temps à l'éducation des enfants quand ils sont à la maison... Le repas, très important pour moi, faire un petit peu, voilà. Eh bien, ça, ça se rétribue parce que c'est une nécessité nationale, sociale, économique et politique.
Mais ça se rétribue pas avant, on va dire, et ça se rétribue toujours pas. Et il y a toujours eu des mères au alors, foyer et des enfants bien éduqués. Vous
les
voyez
temps ont changé. Alors, il y aura un parent au foyer. Alors, ça sera, voilà, en général, c'est la maman.
Parce qu'elle gagne moins.
Au-delà du fait que, sur le terme du chômage, ça ouvrira des emplois, forcément. Voilà. Et je trouve qu'alors là, cette solidarité. Voilà, très noble quoi qu'il en coûte, en disant voilà, mais qui rapportera de l'argent, qui rapportera beaucoup d'argent au niveau de la consommation, de la qualité de la consommation.
C'est plus du quoi qu'il en coûte.
C'est pas
du...
bien élevé.
Et voilà, tu as raison, c'est même plus.
C'est même plus.
Voilà, c'est pas du quoi qu'il en coûte, mais c'est vraiment la vertu foncière de la République de dire, vous voulez rester à la maison pour élever vos enfants, c'est une mission nationale et l'État vous aide, la société vous aide. Voilà, je trouve ça génial.
Pierre Rondeau, est-ce qu'avoir un parent au foyer, c'est l'assurance pour un enfant d'être mieux éduqué?
Mais tu l'as parfaitement dit. Là, je te reprends. J'ai même écrit ce que tu as dit. Mère au foyer, enfant bien éduqué. Ce que je veux dire, c'est que dans le système actuel comptable et capitaliste européen occidental, on va comptabiliser uniquement les valeurs monétaires. On va comptabiliser les richesses créées, ce qui est très bien, le PIB. On va comptabiliser tout ce qui a été produit, tout ce qui a été entrepris, tout ce qui a été mis en œuvre pour faire fonctionner l'économie. Mais on ne prend pas en considération les à côté. Les à côté, c'est le bénévolat. Les à côté, c'est le soutien scolaire. Les à côté, c'est aussi l'éducation familiale. Un enfant qui devient ensuite un étudiant et qui devient ensuite un travailleur, un actif, un salarié, qui rapporte à l'économie de son pays, il en est arrivé là parce qu'il était aussi éduqué par ses parents, sa mère ou son père. Et on ne met pas en avant, on ne comptabilise pas cette richesse créée. Pierre Rigaud a parlé du quoi qu'il en coûte. Non, au contraire, ça rapporte de l'argent de bien éduquer son enfant. J'ai un exemple qui est souvent mis en avant.
Ça fait que la société en dépense moins, surtout.
Ça fait que la société en dépense moins, et elle produit aussi des agents productifs, compétents, éduqués, polis, grâce à l'entreprise familiale, grâce à l'éducation familiale qui est mise en avant et mise en valeur parce qu'on va les rémunérer. Un exemple qui est très souvent cité par la branche de l'économie féministe au sujet de la rémunération des mères au foyer, c'est Adam Smith. Adam Smith est le père fondateur de l'économie moderne. Adam Smith, c'est un intellectuel qui a pu justement écrire des livres parce que toute sa vie, il a été élevé, nourri, choyé par sa mère. Il n'a jamais travaillé parce qu'il vivait chez sa mère. Et sa mère s'occupait de lui. Il a pu donc produire de la documentation qui aujourd'hui est ô combien cité par tous les plus grands économistes, parce que sa mère lui a offert ce confort. Et sa mère n'a pas été récompensée. Comme toutes les mères qui sont en France, qui, matin ou soir, s'occupent de leurs enfants, permettent à ce que leurs enfants réussissent leurs études, réussissent leur vie, et s'installent et profitent à l'économie française, mais ne sont pas rémunérés.
Et un cadre. Moi,
j'ai un autre exemple directement, c'est ma mère. Ma mère n'a pas travaillé pour s'occuper de mon frère, de ma sœur et de moi.
Je le sentais.
Oui, et ma mère n'ayant pas travaillé,
votre implication sur ce
ma mère
sujet,
n'ayant pas sens. Travaillé, elle n'a pas cotisé pour sa retraite. Aujourd'hui, elle a recommencé le travail puisque maintenant on est adulte, donc on est indépendant. Elle a repris le travail, elle a fait un calcul pour voir combien elle toucherait à sa retraite. Elle n'est pas à taux plein parce qu'elle a pas assez de cotisations. Elle a eu 3 enfants.
C'est un vrai problème.
Elle a accepté de s'occuper de nous. Aujourd'hui, elle va devoir travailler jusqu'à 67 ans et même à 67 ans, elle ne sera pas à taux plein parce qu'il n'y a pas de cotisation pour les mères ou les pères au foyer. Et ça, c'est au-delà de la question du salaire familial, la question la cotisation pour le travail de bénévolat ou le travail de parent, c'est primordial. Et je rejoins Pierre Rigaud pour une question nationale.
Je vous rappelle que même si votre mère était au foyer, ça n'a pas empêché votre frère de voler dans les magasins. Vous nous en avez parlé.
Juste un mot.
Ça va vous poursuivre.
Juste une
c'était un petit truc.
Juste une observation rapide pour avoir suggéré ce genre de choses il y a quelques années. Ça n'avait pas été apprécié comme... cordialement sur le plateau là. Je m'étais fait traiter quand même de réactionnaire.
Sur ce plateau il y a quelques années?
Non, je dis là, c'est qu'on discute normalement, voilà.
Quoi, bon.
Mais sur un autre plateau, je m'étais fait
lâcher. Mais parce que bienveillant.
Les mœurs se changent, Pierre Rigaud, et c'est heureux. Vous avez des messages justement, Thierry Rémy?
De très nombreux messages, comme celui qui nous provient de... Hey, c'est son pseudo sur Direct Studio. Bonjour, je dis non, mais améliorer le congé maternité et le congé parental. Par exemple, en le rendant plus long ou mieux rémunéré. Il faut donc conditionner cela à des périodes de travail, sinon c'est la porte ouverte à un effet d'aubaine. Et ce ne sera pas incitatif que de s'engager dans le monde du travail pour certains. Bon, il y a cet avis-là. Il y a aussi beaucoup d'avis très positifs. Et puis, il y a ce message aussi de Sissou qu'il faut entendre. Bonjour, franchement, faire un enfant est un choix. Vous touchez des allocations, en plus. Il faudrait rémunérer les mères au foyer. C'est n'importe quoi. Doit-on doubler le salaire des mamans isolées qui travaillent et qui doivent gérer le soir leurs enfants?
Oui, alors après, les allocations, c'est pas pour éduquer ton enfant, c'est pour acheter des trousses, pour acheter un bureau, etc. Donc ça n'a rien à voir avec l'éducation.
Rien d'éducatif.
On est avec Émilie, et c'est très intéressant, parce qu'Émilie nous appelle le Leverkusen en Allemagne, et elle est mère au foyer. Bonjour Émilie.
Oui, bonjour, bonjour tout le monde.
Et merci d'être avec nous, parce que vous allez pouvoir nous expliquer comment ça se passe en Allemagne, justement.
Oui, bah en fait, c'est ce qui a déjà été dit. Donc, c'est vrai que on a le droit à 3 ans par enfant.
D'accord.
Sur les 3 ans, il y en a de 1 à 2 qui sont payés. Donc, entre guillemets, c'est pas vraiment un salaire, c'est une indemnité qu'on reçoit au prorata de notre salaire. Donc, c'est 60%. Alors, les 100%, je sais pas d'où ça vient, mais c'est 60% du salaire.
C'est de 65 à 100% d'après ce que j'ai vu ce matin. Après, ça dépend peut-être des entreprises.
Du 100%, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Donc, et en fait, le maximum est de 1 800 € sur 12 mois. Et si on veut prendre 24 mois, on a les 900 € dessus. Et la troisième année n'est pas payée, entre guillemets.
D'accord. Et pourquoi vous avez fait ce choix, vous, Émilie?
Parce que justement, c'était pour le truc, c'est que nous on a été obligés de faire passer par la PMA pour avoir des enfants, parce que du coup, c'était quelque chose qu'on voulait. Et je me voyais pas, en fait, entre guillemets, abandonner mes enfants dès la naissance, parce que c'est vrai qu'au bout de 3 ou 4 mois, donc retourner travailler, c'est vrai que c'était une possibilité pour nous, donc de rester, que je puisse rester et m'occuper des enfants, de les éduquer, de passer du temps avec eux, en fait.
Et ils ont quel âge aujourd'hui, vos enfants, Émilie?
10 mois.
10 mois. Et vous en avez 2, c'est ça?
Oui, des jumeaux, j'ai eu.
Ah oui, donc c'est un boulot. Ça, c'est... Et le que vous ayez des jumeaux, des triplés ou un seul enfant, est-ce que c'est le même salaire?
Non, alors en fait, c'est là où c'est un petit peu l'arnaque entre guillemets allemande, c'est que le fait d'avoir des jumeaux, à partir du deuxième enfant, on a 300 € en plus, enfin pour le maximum. Si par exemple vous touchez 1 800 €, vous aurez 300 € en plus par enfant supplémentaire. Donc c'est vaut mieux avoir
les jumeaux compte simple.
Vaut mieux avoir pas des jumeaux, quoi.
Mais les jumeaux comptent simple, c'est ça. Ils comptent 1.
Non, ça fait 1 800 plus 300.
Oui, ça fait 2 100, alors que si elle avait pas eu des jumeaux, mais 2 enfants, elle aurait touché 3 600.
Ah, bah oui.
Voilà. Bon, enfin bon, après, on ne décide
pas,
Émilie. En tout cas, tout se passe bien. Vos enfants sont bien élevés?
Pour l'instant, ça a l'air.
J'en suis sûre. J'en suis sûre. Merci, Émilie, en tout cas, de nous avoir appelés et d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. Alors, Franck nous appelle du Gers. Franck, il n'est pas tout à fait d'accord avec ce revenu parental, hein, je crois. Salut, Franck.
Oui, bonjour Estelle, bonjour à tous. Donc, écoutez, tout à l'heure, là, je roulais, là, je rentrais de la cérémonie du 11 novembre, donc j'en profite une petite pensée à tous nos anciens et tous nos soldats encore engagés à travers le monde.
Ben, vous faites bien, Franck.
Voilà, moi, je roulais, là, j'ai entendu le sujet, j'ai halluciné complet. Alors, on parle déjà de revenus pour les étudiants. On parle de revenus universels. Maintenant, on va parler aussi de revenus pour les femmes au foyer.
Les mères au foyer, Franck, et les parents au foyer. Voilà, c'est pas pareil.
Un des deux. Au foyer. Si vous voulez rester, vous pouvez rester.
C'est pas pour rester glandé sur le canapé, hein.
Non, mais je comprends bien. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai écouté quand même. En fait, j'ai l'impression, alors moi j'ai été élevé par ma mère qui travaillait, j'ai l'impression en fait que si la maman, on parle souvent de la maman, en fait, si la maman elle travaille, elle va pas pouvoir éduquer correctement son enfant comme une qui travaillerait pas. Donc tout à l'heure, apparemment, vous étiez tous d'accord sur le plateau.
Non, mais ça dépend du boulot aussi, Franck. Si par exemple, mes deux parents travaillaient et je les voyais quasiment pas le week-end parce qu'il y avait un boulot très prenant. Je pense avoir été bien élevé, mais vous avez aussi des parents qui travaillent, qui font les 3-8, qui ont moins le temps de s'occuper de leurs enfants. Souvent, je vous parle pas des cadres supérieurs, hein. Parents pour qui c'est plus difficile. Et donc, en fait, si vous leur permettez d'éduquer leurs enfants, c'est-à-dire d'être là. En fait, c'est d'être là, de leur donner de bonnes bases. Perico le disait, on a un gros problème d'obésité aujourd'hui en France. Les enfants mangent mal. Ils se nourrissent super mal. Si vous êtes mère au foyer ou père au foyer, vous avez le temps de faire la cuisine, cuisine, de cuisiner des meilleurs produits. Vous allez certainement aussi faire des
comme dans Gers.
Et vous libérez un poste, parce que on parle de gens qui ont un travail et qui vont renoncer à leur travail pour 2 ou 3 ans. Vous voyez, c'est pas vitam aeternam, mais c'est des gens qui ont déjà un boulot, en fait.
D'accord, là j'ai écouté tout à l'heure l'exemple allemand, alors effectivement eux ils limitent ça dans le temps, c'est 2 ou 3 ans.
Évidemment, si le gamin a 20 ans, bon je pense que ça va le faire.
Effectivement, bon moi à la rigueur avec le système allemand, pourquoi pas, mais vous doutez bien qu'ici c'est la France, si un jour ça passe, on va de suite partir sur des revenus, on a que ce... En fait, si vous voulez, moi où j'ai du mal, c'est qu'on a que ce mot-là à la bouche. Alors, pour moi, parent au foyer, c'est un choix, avant tout. C'est un choix.
Et c'est un choix parce que parfois, il y a des gens qui n'ont pas, pas de crèche. C'est ça le problème.
Donc, on peut-être essayer d'améliorer le système pour garder les enfants, etc. Et il y a peut-être des choses à travailler, là, il n'y a pas de problème.
Bien sûr.
Mais à un moment donné,
moi et mon épouse. Politique familiale à la maison, ça n'empêche pas.
Attends.
D'accord. Moi et mon épouse, on a adopté.
D'accord.
Voilà. On a adopté une petite fille charmante, voilà. Elle venait du Chili, elle avait 7 ans. Quand on est rentré en France, ma femme, elle a eu droit au congé parental. Ouais. Pas de problème, comme une femme qui accouche, il n'y a pas de souci. Et puis après, elle a repris le boulot. D'accord. Ouais. Parce que bon, chez nous, c'est, voilà, dans notre vision, c'est, il y a monsieur et madame qui travaillent, il y a égalité dans le couple, il n'y a pas de problème.
Okay.
La petite, elle est très bien élevée, on lui donne tout ce qu'on veut. Donc moi, ce que j'ai peur, alors, au-delà du fait que bon, je veux pas qu'on fasse comparer les gens entre ceux qui travaillent, ceux qui travaillent pas, mm-hmm. et qui se sacrifient pour leurs enfants, etc. Ça, pour moi, c'est, comme je le redis, c'est un choix pour moi.
Okay.
Maintenant, moi, je voudrais un peu, pour moi, si vous voulez, c'est encore un symbole de...
Vous allez voir que l'État paye pour tout le monde, c'est ça, en fait.
Moi, je voudrais que la valeur travail, d'accord, reviennent au centre du débat.
Ouais, mais Franck, c'est un boulot d'être parent.
Oui, c'est un travail d'être parent.
Moi, j'en ai marre en tant que femme de travailler pour les hommes. Je peux le poser comme ça aussi. J'en ai marre en tant que femme qu'on travaille pour les hommes. La réalité, c'est qu'on travaille plus à la maison sur tout le ménage, sur la cuisine. Malheureusement, encore aujourd'hui, on travaille plus. C'est un travail qui est dissimulé dans la question économique. Et donc, souvent, en réalité, le choix, ce que vous dites être un choix, c'est souvent un sacrifice pour la femme, en termes de carrière, en termes de retraite, comme le posait Pierre, en termes de salaire. Et ça doit changer. Comment est-ce qu'on le fait changer? Est-ce que c'est la bonne solution? Ça, on peut en discuter. Mais il y a un moment, moi je suis d'accord qu'il y a un moment le travail doit payer. Mais ce travail-là aussi, il doit être reconnu. C'est un enjeu de reconnaissance pour le boulot qu'on fait à la maison. Et il y en a un petit peu marre qu'on travaille pour les hommes.
Après, ce que dit Franck, c'est que l'État, il file à tout le monde, en fait. Voilà, il file un revenu à tout le monde.
Je suis la première à dire que c'est le travail qui doit payer.
Je rappelle que ça serait pas obligatoire, hein. Oui, Franck, voilà, c'est les mères qui... Le cas de figure est simple. Vous avez des mamans qui sont inquiètes parce qu'alors il y a une nounou ou quelqu'un qui garde, elle a des heures épouvantables, elle s'estime pas satisfaite de la façon dont ses enfants grandissent et dont ils vivent. Elle voudrait s'investir dans la vie de la famille, dans l'éducation de ses enfants, et l'État lui laisserait la possibilité pendant un moment donné, justement, de mettre son travail professionnel de côté auquel elle renonce pas, et de s'inquiéter, de s'occuper de quelque chose de fondamental qui est l'avenir des enfants, donc l'avenir du pays, donc l'équilibre de la société. Voilà.
Merci en tout cas à Franck d'avoir été avec nous. Notre invitée sur ce dossier, c'est Valérie Duez-Reuf. Elle est avocate en droit social et autrice du Code de la mère active. Bonjour Valérie.
Bonjour à tout le monde.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Est-ce que ce serait une bonne chose de créer un revenu pour les parents au foyer?
Alors, je ne sais pas qui c'est qui doit vous répondre en premier lieu, si c'est l'avocate en droit social spécialiste de la lutte contre la discrimination ou bien la maman active de 2 enfants, je ne sais pas, je vais faire taire plutôt cette deuxième partie où vous répondre en tant que spécialiste.
Faites un florilège de vous-même.
Voilà, parce que j'ai été un petit peu outrée par les propos que j'ai entendus, j'ai jugé assez rétrograde et pas du tout conscient de la réalité de ce qu'est une maman active aujourd'hui. Je pense qu'on peut tout à fait éduquer correctement nos enfants, même en leur montrant, justement, surtout en leur montrant ce que c'est que la valeur travail et ce que c'est qu'une femme active aujourd'hui. Mais laissons cela de côté.
Voilà. Il ne s'agissait pas de montrer le contraire, hein.
Non, bien sûr.
Alors, moi, je pense que c'est une excellente idée pour valoriser le travail domestique, mais que ça peut aussi être très dangereux pour les personnes qui en bénéficient. Et ne nous voilons pas la face, on parle souvent des femmes, enfin, en tout cas, pour congé parental, en l'espèce, ce serait la femme. Pour un, le préjudice de carrière, parce que même si on limite, 2-3 ans, il y a quand même un préjudice de carrière. Pendant ce temps-là, on est quand même placé en situation de dépendance financière vis-à-vis de l'autre conjoint, même si supposons il y aurait une...
S'il y a une
rémunération. Oui, mais il y a quand même une baisse de rémunération.
Ah oui, il y a 60% en Allemagne, oui, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Voilà. Et puis surtout, moi, ce qui me dérange le plus, c'est que ça va venir impacter encore plus la charge de la parentalité qui repose sur les épaules de la femme. C'est-à-dire que les discriminations, elles vont complètement exploser. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les femmes sont essentiellement discriminées pour raison de maternité et les hommes beaucoup moins, les pères beaucoup moins? Parce que, évidemment.
Parce qu'on est absente du travail.
Et ben voilà. Parce que les femmes, on est absente, on prend un congé maternité de 3 mois, 4 mois. Et les hommes, eux, ils prennent très peu leur congé paternité. Très peu. Et donc, la charge de la parentalité repose exclusivement sur les épaules de la femme.
Bien
et
sûr.
Donc, tant que ça continuera de rester comme ça, eh bien, les femmes subiront vraiment de plein fouet les discriminations liées à la parentalité. Donc, attention, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment plutôt privilégier d'investir. Donc, si vous voulez que la collectivité prenne en charge l'éducation des enfants, investissons dans les structures d'accueil pour la petite
enfance. Dans les modes de garde, bien sûr.
Voilà, pour permettre aux femmes de travailler. Répartissons la charge de la parentalité en permettant aux hommes aussi d'assumer la charge de la parentalité. Tout à l'heure, j'entendais
des personnes
qui sont sur le plateau. Mais oui, mais encore plus, le favoriser encore plus. Et justement, aussi changer les mentalités et inciter, donner un côté incitatif justement aux primes pour que les pères s'investissent plus au quotidien. Parce que les jours enfants malades, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est bien souvent les mères qui les prennent. Le congé maternité, le congé parental, ce sont les femmes. Tout ça, ça pèse sur les femmes. Et donc, au moment de recruter une femme, eh ben, le patron, il va
vous
dire attention, elle est jeune. Et voilà. Donc, si en plus, on a un congé de 2-3 ans rémunéré, ça va encore plus pénaliser les femmes sur le marché de l'emploi.
C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant ce que vous dites, effectivement, parce que c'est un autre volet de réflexion. Je voudrais qu'on entende le témoignage de Sophie, qui nous appelle d'Achère, dans les Yvelines, et qui est institutrice. Bonjour, Sophie.
Bonjour à tous, bonjour toute l'équipe, bonjour aux auditeurs.
Alors, Sophie, vous vouliez tordre le cou à l'idée, finalement, que quand on était éduqué par une mère au foyer, on était mieux éduqué que les autres.
Mais, oui, alors déjà, je voulais dire deux petites choses. La première chose, je suis tellement d'accord avec ce qui vient d'être dit, vraiment.
De notre invité,
oui. Ah oui, totalement. Et effectivement, je ne sais pas pourquoi vous faites la relation entre le fait d'être éduqué, enfin le fait que un des deux parents va être à la maison et être peut-être plus présent pour l'enfant, parce que l'un ne va pas forcément avec l'autre. C'est pas parce que le parent est là que obligatoirement il va plus s'occuper de son enfant.
Ah bah s'il joue à Candy Crush toute la journée, non.
Oui, c'est sûr.
Ça ne va pas, c'est sûr.
Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment le parent est à la maison, donc forcément il va faire des jeux de société avec son enfant, cuisiner, faire de la pâtisserie avec son enfant, lui apprendre plein de choses, l'emmener au musée, etc. L'un ne va pas forcément avec l'autre. J'en ai pour preuve au quotidien, moi et toutes mes collègues et tous mes collègues. On a des parents qui ne travaillent pas par choix, par un choix de vie ou pas. Ce ne sont pas forcément des enfants qui vont être plus polis parce que papa, maman ne travaillent pas. Des enfants qui ont des parents qui travaillent peuvent être bien mieux éduqués qu'un enfant qui a des parents à la maison. Donc pour moi, je ne comprends pas la relation qu'on peut faire avec la bonne éducation et le fait qu'un parent soit à la maison.
Alors, je peux répondre.
Allez-y, Rico, bien sûr.
Chère madame, vu ce que l'éducation nationale, dans certains cas, fait de nos enfants aujourd'hui, je ne parle même pas de la fabrique du crétin, mais de la désocialisation des enfants dans le milieu éducatif scolaire pour les raisons que vous savez très bien, et je ne généralise pas, que des parents disent « moi, je préfère m'occuper moi-même de l'éducation de mes enfants que de le confier à des gens qui en font ou des barbares ou des abrutis », je trouve que c'est légitime. C'est un débat hein, avec la polémique que ça suscite, voilà.
C'est légitime, je ne remets pas du tout, c'est totalement légitime. Moi, pour ma part, moi, j'ai arrêté de travailler
et Dieu sait si j'ai du respect pour les enfants.
J'ai arrêté de travailler pendant un temps pour m'occuper de mes enfants, mais il faut arrêter de... Enfin, c'est pas cuicui des petits oiseaux où bah, papa ne travaille pas, donc il va nous emmener à des super expositions sur Frida Kahlo, on va faire...
Papa va jouer à FIFA, surtout.
Oui, mais comme je connais de plus en plus de cas de parents sans la loi qui le font, qui se débrouillent pour le faire et que ça se passe merveilleusement bien pour les enfants, je me dis qu'à un moment donné, l'État pourrait prendre ça aussi en charge.
Oui. Après, tu peux être bien élevé par deux parents qui travaillent.
Mais il n'y a pas de problème.
Je voudrais quand même le rappeler.
Mais c'est la majorité des cas. Mais que des parents puissent avoir le choix de dire je vais m'occuper
c'est
de
ça.
Mais pas que de la famille et la maison.
Mais c'est vrai qu'il y a des contrôles en fait.
Parce que
aura. Parce que justement, si c'est encore une fois, c'est pour glander sur son canapé en jouant à Candy Crush, ça va pas être possible. Il faut quand même que ce soit.
Il y aura autant de contrôles
que
pour le télétravail qui est aujourd'hui aujourd'hui qui est une source de grande richesse économique.
Le débat ne porte pas sur l'éducation des enfants pour un père ou une mère active ou non active. C'est surtout sur vraiment sur la question de la reconnaissance
de
l'éducation et de la famille. C'est-à-dire que quand bien même vous travaillez, il y a quand même de l'éducation qui est portée à vos enfants et cette éducation doit être rémunérée, doit être considérée, doit être
comptabilisée. Je peux demander un revenu parce que j'ai éduqué mes enfants.
Oui, mais à travers ton éducation, quand bien même tu es une femme active, à travers ton éducation, tes enfants ont réussi. Je veux dire, c'est pas simplement je n'ai pas travaillé, donc ils sont éduqués. C'est que tu as éduqué naturellement tes enfants. Et ton action de mère, que ce soit mère active ou mère au foyer, permet que tes enfants réussissent et soient maintenant des gens qui ont parfaitement réussi leurs études et qui sont totalement accomplis. Ça, il faut le récompenser. Ça, faut le comptabiliser.
Enfin,
ça,
faut le considérer. Père est aussi pour quelque
mais
chose.
Le père, hein. Les parents, je parle. Non, je parle des parents. Là, je te montre parce que tu es là. Oui, et le père et la mère, peu importe, quelle que soit la famille, il faut reconnaître à travers une forme de rémunération ou de reconnaissance comptable le travail de l'éducation.
La valeur famille est malade en France aujourd'hui. Il faut la réhabiliter.
Enfin, décidément, entre la valeur famille et la valeur travail.
Oui, mais voilà.
Le travail, enfin, la valeur familiale.
Non, mais vous savez ce qui s'est passé.
Le travail d'éducation.
Vous savez ce qui s'est passé. Le slogan de Vichy était. Travail, famille, patrie.
Oui, bah, mais
c'est
ça
trois thèmes.
Mais
oui, donc ces trois thèmes ont été. C'est pas parce que Vichy a mis la fin. Mais c'est pour ça.
Non, mais là,
donc on va pas laisser la valeur famille dégrader parce qu'un régime épouvantable l'a utilisé comme les motifs. Oui. Voilà. Bon. La famille, c'est notre société.
Voilà. Bon, bah, merci en tout cas à tous les auditeurs qui nous ont appelés sur ce sujet. Et puis merci à Valérie Duez-Reuf, notre invitée sur ce débat, avocate en droit social et autrice du Code de la mère active. Alors, on va voir ce qu'en pensent nos auditeurs. On vous a posé la question. Question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Créer un salaire parental, bonne ou mauvaise idée?
Tu le sais, dans notre émission, ceux qui votent sur nos réseaux sociaux souvent sont assez réticents aux aides. Quand on a fait les sujets sur les chèques alimentaires, sur les chèques carburants, etc.
Les gens n'aiment pas les aides.
Non, et ben là, c'est une mauvaise idée. Hein. Mauvaise idée pour 63% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux.
Ouais. Ils ne sont pas d'accord. Oui, mais je comprends, ils ont peur de la dérive.
C'est encore possible.
On va encore payer des gens qui font rien. Voilà.
Dans un instant, on va payer Nicolas Trénaud, mais il va faire quelque chose. Qu'il va faire RMC s'engage pour vous. Et il va nous parler de la faillite de Med.com. Vous savez, cette société qui a déposé le bilan et qui a lésé des milliers et des milliers de clients. On a du nouveau dans cette affaire. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h33 sur RMC, RMC Story, c'est le moment d'accueillir Nicolas Trénaud. RMC s'engage pour vous.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et Nicolas, tous les vendredis, on fait le point sur des affaires. Bonjour. RMC, on suit les dossiers, il faut le dire. Et aujourd'hui, on revient sur une affaire qui a fait grand bruit. C'est l'affaire de la faillite Med.com, une entreprise qui vendait, on va dire, des meubles en ligne.
Exactement. Et sur le site de Med.com, on donne la couleur clairement désormais. Au revoir et merci d'avoir fait partie de notre histoire. Voilà le message qui est affiché sur le site internet qui a fermé officiellement mercredi. Mais pour les clients, cette histoire est loin d'être finie. On entendait lundi sur RMC, Franck et Kirsten, parce que leur commande n'a jamais été livrée. Ce n'est toujours pas le cas. Ils sont désormais près de 900 clients comme eux. Les situations sont de plus en plus absurdes à leurs yeux. Amélie, par exemple, a vu son canapé littéralement lui passer sous le nez. Les livreurs ont reçu l'ordre juste devant sa porte de ne pas lui donner.
Ce qui est quand même dingue, c'est que le 26 octobre, le camion est arrivé devant chez moi. J'ai vu mon canapé dans le camion et il pouvait pas me donner mon canapé. Je pense qu'on est clairement le dindon de la farce dans une histoire financière qu'il faut démêler. Aujourd'hui, j'attends parce que les choses bougent au niveau de Med.com. On espère de la part du transporteur de la bienveillance et de la bonne foi.
Alors, il y a quand même eu, Nicolas, il faut le dire, des avancées cette semaine.
Oui, mercredi, un repreneur a racheté la marque et le site, mais pas les meubles. Les meubles, c'est un grand cabinet spécialisé chargé de la liquidation qui va s'en occuper. Trois administrateurs judiciaires ont été nommés et ils ont d'ores et déjà annoncé que les commandes bloquées chez les livreurs vont pouvoir être libérées.
Ah bah super !
À condition que le transporteur accepte. On parle de 4500 commandes dans toute l'Europe, sachant que la France est un des plus gros marchés.
Bah, pour qui refuserait ? Il va se retrouver avec des meubles dans son entrepôt, enfin je veux dire...
Et justement, on l'a contacté, et figurez-vous que ce n'est pas gagné. Principal transporteur français de Maïd, il s'appelle Vire by JP.
Ah oui.
Il attendait la nomination des administrateurs judiciaires pour réagir, et maintenant que c'est fait, la société de livraison indique que non, elle ne va toujours pas livrer les colis. Un dirigeant nous a révélé hier au téléphone que Maïd a une dette de 500 000 euros chez le transporteur.
Ah.
Donc, Vire by JP assure que les livraisons seront faites si et seulement si il y a un début de dialogue avec les administrateurs et une négociation. Ce n'est pas le cas pour le moment. Personne n'a cherché à contacter la société selon eux.
Ça veut dire qu'en fait, ils se disent « Maïd nous doit 500 000 euros, donc je vais revendre le canapé de Kirsten et ça va me faire 2000 euros. » Et en fait, ils vont revendre les meubles, comme je comprends pas.
Non, ils comptent les garder, les entreposer dans, les garder dans leurs entrepôts pour pouvoir négocier en parallèle avec les administrateurs judiciaires ou les repreneurs pour tenter d'obtenir un accord et ensuite de livrer les meubles, de conserver les meubles en attendant d'avoir une discussion ou un dialogue qui s'ouvre avec... avec PwC, le cabinet qui gère la reprise.
Mais alors, Nicolas, comme il y avait un repreneur, c'est la société Next qui a repris Maïd.com, est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir acheter à nouveau des produits Maïd, mais pas tout de suite, hein, bien sûr, hein, mais plus tard, en fait.
Et ça, on n'en a aucune idée pour le moment, puisque, comme je vous disais...
J'aimais bien cette marque.
Next a uniquement racheté le site et la marque. Donc, c'est la marque qui compte. Tous les stocks, toutes les marchandises et tous les entrepôts qui sont partout dans le monde de Maïd.com ne leur appartiennent pas.
Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette marque ?
Ils vont en faire... Il y a beaucoup de marques d'habillement aujourd'hui, comme plein de marques, plein de grandes enseignes d'habillement qui proposent des rayons déco. Ça peut être le cas, où ils n'ont pas encore annoncé leur projet précis.
C'est très décevant, hein, cette faillite souris. Mais en tout cas, on espère pour tous les clients de Maïd qui pourront récupérer leur canapé ou au moins leur argent. Est-ce qu'ils ont justement, les clients qui ne recevront jamais leur canapé, une chance d'être remboursés quand même?
En général, c'est très très long. Amélie et les autres consommateurs peuvent dès maintenant se porter créanciers, c'est déjà fait pour certains. C'est-à-dire qu'ils pourront toucher de l'argent, mais à la toute fin de la procédure, après les salariés de l'entreprise et les fournisseurs. Mais les clients cherchent d'autres moyens d'agir et c'est une information à RMC qu'on vous donne. Maître Emma Léauty, qui représente près de 900 clients français, va mettre en demeure les administrateurs judiciaires.
L'objectif, c'est de trouver un accord amiable pour obtenir le remboursement immédiat des sommes. C'est aussi d'alerter de façon immédiate sur le nombre de consommateurs qui m'ont d'ores et déjà mandaté. Le dossier est quand même relativement médiatisé. Je pense qu'ils prendront nos demandes très au sérieux. Ils sont normalement tenus de nous répondre.
Au-delà de cette procédure, l'avocat songe à une autre action, mais du côté des banques cette fois-ci, pour tenter de négocier un remboursement ou l'annulation des futurs prélèvements pour ceux qui ont payé en plusieurs fois. Et il y a de l'espoir, puisque des clients qui avaient acheté leurs meubles par le service PayPal en ligne ont par exemple déjà réussi à récupérer une partie de leur argent.
Donc il y a de l'espoir, et ça c'est bien, et c'est aussi grâce à vous Nicolas Traîneau. Merci beaucoup, RMC s'engage pour vous tous les jours à 14h30 dans Estelle Midi. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. On vous parlera du symbole du jour, de l'espérance du jour, du feu vert du jour. Sanofi, le vaccin, dites donc, trois ans plus tard, hop, il est là.
Deux ans. Oh, ça va, deux ans, tu exagères toujours.
Je suis pas sûr qu'il soit pour Omicron, à mon avis, ouais. Il est encore pour Alpha.
C'est pour un rappel. Non mais c'est vrai, c'est pour un rappel.
Bon bref, on en parlera dans les immanquables et puis peut-être ouvrirez-vous le coffre RMC. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Dernière partie d'Estelle Midi. Dans un instant, il y aura les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Mais tout de suite, on joue au coffre RMC, Rémi.
Exactement. Rémi. Alors... c'est très simple, hein. Vous avez envoyé coffre par SMS au 732-16 et l'un d'entre vous a été sélectionné. Tu as une enveloppe devant toi, Estelle.
Tout à fait.
Dans cette enveloppe, il y a soit de quoi gagner une enceinte Marshall ou Webern, soit un iPad. Donc il y aura un cadeau quoi qu'il arrive. Et à ce moment-là, eh bien, celui qui va jouer ou celle qui va jouer avec nous dans quelques instants aura le choix, soit il garde ce cadeau, soit il y renonce. Mais à ce moment-là, peut ouvrir le coffre RMC avec à l'intérieur soit des AirPods, soit la totale Coupe du Monde, une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four, un mini pizza et un mini bar.
Et c'est Sébastien qui va jouer avec nous, Sébastien de Donnery du Loiret. Bonjour Sébastien.
Bonjour Estelle. Et bonjour l'équipe.
Ouais, mais c'est chouette de terminer la semaine avec vous, Sébastien.
Ah, bah oui, c'était super. Il n'y a plus qu'à me faire gagner et puis c'est parfait.
Ah bah alors je vais vous dire Sébastien, je vais vous faire gagner. Vous faire gagner quoi, j'en sais rien.
Voilà.
Mais je vais vous faire gagner. Ah bah écoutez, non mais Sébastien, là, voilà, en revanche, je peux pas m'engager sur le cadeau. Mais là, j'ai une enveloppe avec moi Sébastien. Dans cette enveloppe, il y a soit une enceinte, soit un iPad. Vous aimeriez quoi?
Ah le coffre.
Ah,
dans tous les coups, je suis là pour le coffre. Dans tous les cas, je suis là pour le coffre.
Mais je vous dis même pas ce qu'il y a dans l'enveloppe.
Ah bah si, je vais savoir quand même.
Alors quand même, que je fasse mon boulot quand même. Hop, j'ouvre l'enveloppe. Bon, que j'avais déjà ouverte avant, on va pas se mentir. Donc, et dans cette enveloppe, il y a un iPad quand même, Sébastien. C'est un beau cadeau. Sébastien,
mais veut le coffre.
Je suis pas tombé encore.
Oui. Donc un iPad, non, ça vous...
Ah, on sent une petite hésitation là.
Il y a une petite hésitation.
Une petite hésitation.
mais on n'est pas très, on est pas très iPad, on est plus la marque concurrente. Donc non, je suis là pour jouer. Et le coffre a été gagné dans les grandes gueules, j'ai pas écouté ce matin.
Bah, je crois qu'il a été beaucoup gagné cette semaine. Mais après, si vous n'aimez pas les iPads, bon, de toute façon.
Fallait voilà. Écouter de toute façon. Enfin là, c'est comme ça.
Non, ouais, ça n'a pas été gagné aujourd'hui.
Il n'a pas été gagné aujourd'hui.
Non, mais non, il a été gagné hier.
Vous allez me porter. Il a été gagné hier.
Ah, il réfléchit là. Ah, tu le perds là complètement.
Et il a été gagné. Il a été gagné deux fois. Nous dans Estelle Midi.
Deux fois dans Estelle Midi. Ben, j'avais 203. La troisième, c'est aujourd'hui. Allez, je vous fais confiance. Vous allez me porter chance, Estelle.
Voilà, mais ne mettez pas la pression. Je suis moins bonne quand j'ai la pression, Sébastien. Moi, j'ai besoin de quiétude et de sérénité.
Allez, le coffre.
Non, mais je suis très serein. On y va pour les coffres. Allez. Les AirPods, ça sera très bien.
L'important, c'est de participer.
Exactement.
Non, c'est de gagner. De toute façon, il s'en fout de participer parce qu'il va gagner quelque chose. Bon, Sébastien, je fais le code 1205E.
Allez.
J'espère vous porter chance, Sébastien. J'ouvre le coffre, Sébastien. Dans le coffre, il y a une boîte marron, comme d'habitude. J'ouvre cette boîte marron, Sébastien. Et dans cette boîte marron, il y a des AirPods, Sébastien.
Ouais, ce sera très bien.
Très bien.
Bon, bah écoutez, je suis contente.
Pas de soucis.
Ouais, j'aurais aimé vous faire gagner la totale RMC, Sébastien. Mais des AirPods, c'est top. C'est pour Noël, en plus, c'est tout.
C'est super déjà d'avoir été sélectionné, de vous avoir parlé. Je suis content, pas de soucis.
Eh ben nous aussi, on est très contents. Merci Sébastien d'avoir joué avec nous. Et puis bravo, vous recevrez très rapidement ces AirPods. Et puis bonne nouvelle, Rémi.
Bah oui, parce qu'on continue de jouer au grand jeu du coffre RMC tout au long de la journée sur RMC. Ça sera dans un instant, dans le Super Moscato Show. Et donc, vous vous inscrivez tout de suite en envoyant coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16.
Le four à pizza, je ne le verrai jamais.
Estelle Midi, les immanquables.
Mettez-vous, Pierrico, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et on va commencer. On l'attendait, mais ça me met les larmes aux yeux. Ouais. Le feu vert du jour, Rémi.
Oui, après 2 ans d'attente, le vaccin contre le Covid-19 du laboratoire français Sanofi pourra être utilisé comme dose de rappel. L'autorisation donnée hier par l'Agence européenne des médicaments, alors que le laboratoire avait initialement promis 1 milliard de doses en 2021, bah, elles ne se sont jamais matérialisées en raison d'un problème de dosage lors des essais cliniques. Et parallèlement, Sanofi avait aussi tenté de développer, on le sait, le vaccin anti-Covid, utilisant la technologie de l'ARN messager avant finalement de renoncer là aussi.
Ouais. C'est une bonne nouvelle, Pierre.
Oui, non, mais oui, il faut quand même se féliciter que la France ait pu produire un vaccin. Bon, on est en 2022, c'est pas grave, mais Covid-19 2022.
Je voudrais savoir pour quel variant il est ce vaccin. C'est quand même
Oui, ce serait intéressant. Ils ont dit pour une dose de rappel. Ouais. J'imagine que c'est pour les nouveaux.
Donc, s'ils ont commencé en 2019, ils doivent être.
Mais simplement.
Non, mais ils sont efficaces contre les nouveaux variants.
Soyons fiers quand même que Sanofi, laboratoire français, ait enfin pu produire un vaccin pour les doses de rappel. C'est très bien. Prenons-le positivement. Ouais. Voyons le verre à moitié plein.
Ouais. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même un peu
juste
mignon,
20 ans ou 25 ans, on avait une boîte qui s'appelait Rhône-Poulenc. On aurait été les premiers depuis. On a démantelé. L'essentiel, c'est que ça soit derrière nous et qu'on ait vacciné.
Monsieur
Rondeau.
Monsieur
Rondeau, la social-démocratie française et les libéraux. La social-démocratie libérale.
Les libéraux.
Ils l'ont eu.
Les complices. Le système politique a démantelé l'industrie pharmaceutique française. Vendue, dépecée, bradée. On en est là. On était une puissance pharmaceutique avec du génie pharmaceutique. On l'a bradé, on l'a tué parce que la classe politique s'est couchée devant les lobbies mondiaux. Ça, c'est la seule vérité qui explique pourquoi. Et on est content d'avoir Sanofi. On aurait été les premiers. ARN et tout, on aurait tout découvert.
Je vais vous citer Guillaume Duval. Rédacteur en chef chez Alternative Économique. La France n'est plus une grande puissance, tant mieux.
Mais je sais bien, la faute à qui ?
Mais c'est pas grave.
Ah, c'est mieux d'être comme ça.
Si c'est pas grave. Pourquoi on va s'étaler sur le fait que la France n'est pas
une grande puissance ?
Depuis 2 ans, c'est pas la fin du monde.
Pourquoi on cherche de vaccins ?
C'est notre recherche.
Et retenons simplement que nous sommes vaccinés, nous avons vaincu la pandémie.
Et puis arrêtons Renault et Peugeot, puis on fait du coréen et on fait du chinois.
C'est
la fin de la France.
Il y a 2 ans.
Juste la fin de la France.
Arrêtez la fin de la France.
Là, c'est un symbole de la fin de la France.
Les meilleurs, ils sont ailleurs. Et ça, c'est un problème.
C'est un symbole.
Pour ce vaccin, même si on a été vacciné, tant mieux pour nous. Formidable. Mais aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en régression sur le domaine de la recherche médicale.
C'est un symbole gigantesque.
Est-ce que justement la recherche européenne, non pas française, que les échanges interuniversitaires se développent, que les échanges avec les Italiens, les Anglais, les Espagnols, les Allemands.
C'est payé en France. Bah oui, ça aussi, c'est un drame.
Mais qui a une augmentation justement des rôles.
relations inter-universitaires entre toutes les grandes facs et tous les grands laboratoires de recherche européens.
Voilà. Mais Pierre, tu trouves pas que quand même, ce serait mieux, tu trouves pas quand même, Pierre, que ce serait mieux qu'au lieu d'avoir délocalisé tous les emplois, je parle de l'industrie pharmaceutique, mais on peut parler d'autres industries,
bien sûr. Non, mais on parle de celle-là.
À l'étranger, d'envoyer des emplois en Chine et de la pollution en Chine.
Mais c'est pas en Chine qu'on a produit le vaccin, par exemple.
Non, mais je te prends produit Sinovac.
On te parle des masques, il a fallu les procurer là-bas au départ.
On parle du démantèlement de l'industrie française.
Quelle société on veut, quoi. Il y a un moment où, quand on va avoir plein de chocs qui vont arriver, là, le Covid, c'est le premier d'entre eux, on va en avoir d'autres, on le voit avec chaque été qui est plus chaud. Comment est-ce qu'on fait si on n'arrive pas à relocaliser notre économie avec une industrie qui a du sens et qui permet de couvrir les services essentiels?
Pense à Alstom, hein, que Hollande a laissé partir. Voilà.
Mais il y en a plein d'autres. Et ça continue.
À travers, justement, les relations internationales, nos rapports avec les pays voisins, les pays européens, c'est à travers la puissance européenne qu'on pourra
vachement envie de voter Europe
chinois ou russe, c'est tout. La France toute seule ne pèse rien. Je suis désolé de vous dire, la France toute seule face aux Américains ou aux Chinois ne pèse rien.
Et c'est dommage.
Arrêtons de croire que la France est un grand empire.
Non.
Mais c'est l'Europe qui a délocalisé.
C'est pas juste la France.
D'accord. Eh bien, abandonnons tout à l'Europe.
Mais c'est pas. Non, mais.
Scandaleux qu'on ait gardé quelques secteurs.
La France, c'est l'Europe.
Non, mais déjà, d'accord, si l'Europe avait les choses. Mais c'est même pas le cas, en fait. On a délocalisé beaucoup plus loin que l'Europe. Et quand l'énergie se renchérit, il y a un moment, ça devient compliqué.
À force de renoncement.
Le symbole du jour.
Alors que 8 capitaines de sélections européennes souhaitent porter un brassard arc-en-ciel durant la Coupe du Monde au Qatar en signe de soutien à la lutte contre les discriminations, eh bien le président de la Fédération française de foot ne souhaite pas, lui, qu'Hugo Lloris le fasse. Dans une interview à l'équipe, Noël Le Graët se dit que l'on veut être tellement donneur de leçons en France qu'il faudrait regarder aussi ce qui se passe chez nous.
Ah, bien sûr.
C'est une nouvelle faute de Noël Le Graët. Il a un peu de mal dans sa com' en ce moment, Pierre Rondeau.
Hier, la ministre des Sports a dit, je la cite, Noël Le Graët respecte les femmes, il a lui-même une fille.
Il en a plus.
C'est quand même dingue.
Premier argument en termes de communication, c'est quand même.
Ça, c'est de l'argumentation. Hein. 2022.
C'est riche.
C'est le propos rapporté. Oui. Et aujourd'hui, dans le journal de l'équipe, il dit on n'a pas à donner des leçons au Qatar. Regardons d'abord ce que nous faisons en France. Et je rappelle qu'en France, c'est pas encore acté pour l'instant, il y a des présomptions de culpabilité, de cas d'harcèlement sexuel, de couverture de cas de pédophilie, directement au sein de la fédération, auprès de certains cadres. Ancien cadre de la fédération.
Mais quelque part, il a raison. Regardez ce que nous faisons en France. Lui-même a dit qu'il n'y avait pas de problème avec l'homosexualité ou avec le racisme dans le foot français.
Alors, tout va bien. Il n'y a pas de racisme. Hein, je cite encore Noël Le Graët, il n'y a pas de racisme en football. Ouais. Bon. Soit, dans ces cas-là, autorisons-nous à porter ce brassard contre les discriminations s'il n'y a pas de racisme en France. Or, il y en a. Alors, oui, la question, c'est est-ce qu'on devrait montrer du doigt le Qatar quand nous-mêmes, on ne respecterait pas certaines formes de bienséance, de bien-être vis-à-vis des communautés LGBT ou des Noirs ou des Arabes, ou en tout cas contre le racisme. Si, d'après Noël Le Graët, il n'y a pas de racisme en France, qui est faux dans le football, on pourrait le porter.
Et rappelons que le même Noël Le Graët s'est opposé au fait qu'on interrompe les matchs lorsqu'il y avait des cris homophobes dans les stades.
Oui.
C'est une nouvelle faute pour vous, Mathilde Himmer.
Oui, moi j'avoue que je pense que c'est bien qu'on arrive à l'ère post-Noël Le Graët.
Officiellement jusqu'en 2024.
Oui, enfin, vous doutez bien que la Coupe du Monde s'arrête là. Et
non, mais il a un contrat, il a été élu avec une très grande majorité.
Cette Coupe du Monde-là, c'est la fin d'un cycle.
Oui, je veux dire, tout se passe comme prévu. Sûrement.
Peut-être. En tout cas, il a l'air de montrer qu'il a. Mais en tout cas, formellement, il a un contrat jusqu'en 2024. Il a été réélu avec une très grande majorité.
Tout se passe comme prévu. C'est comme papa dans maman. C'est parfait. On continue comme ça.
Ah, c'est bien, c'est élégant.
C'est bien, c'est
pas. Il aurait pu dire. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette phrase.
Voilà, mais là, c'est vraiment le cas de le dire. Alors.
Voilà. Mais non.
Allez, continuez.
C'est horrible. On passe.
Bébé.
On passe à la.
Sûr
non, non
sûr
mais je vais passer à autre chose.
Non, on a plus le temps.
On va passer à l'espérance du jour.
Allez, les bébés nés en 2022 peuvent statistiquement espérer vivre jusqu'à 93 ans pour les filles et 90 ans pour les garçons. C'est ce que nous dit une étude de l'INSEE publiée aujourd'hui.
Je me demande comment ils ont fait l'étude, hein, parce que moi j'entends aussi que l'augmentation de la pollution augmente les risques de mortalité, que le fait de vivre à Paris c'est comme fumer 10 cigarettes par jour.
Les soins, la qualité des soins augmente.
Vous qui passez votre temps à nous sortir des études, on ne sait jamais d'où elles viennent, c'est l'INSEE.
Je demande à voir la méthodologie de l'INSEE, comment parviennent-ils à conclure que les enfants qui naissent aujourd'hui vont vivre pendant 90 ans.
Mais vous regardez la méthodologie des études suédoises.
Je vais aller la consulter avant de répondre. Et je vais vérifier si oui ou non l'INSEE se base sur simplement une simple moyenne statistique ou véritablement sur les conditions d'existence dans 2030, 2040, 2050 vont s'améliorer. Oui.
Avec quoi on va les payer?
Hein?
Avec quoi on va les payer?
Les retraites?
Ça mange tout ça?
Bah, ça
longe,
vous savez,
plus
être à l'âge égal de départ à la retraite à 80 ans.
C'est un trou gigantesque dans le tout, la finance publique. Là, non, faut pas, 93 ans, non.
Faut pas refaire comment
pas, non.
C'est
non,
une date de péremption.
À partir de 70 ans,
mais ils ont peut-être pas envie, surtout.
Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de vaccin français.
On a peut-être pas envie de se prolonger comme ça pour rien.
Perico, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vaccin français. Comme ça, il meurt plus tôt.
Ah, je te reconnais.